Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Alors bonjour Benoît, José Duval.
Bonjour.
Jobé Duval, pardon, j'ai écorché votre nom. Vous êtes responsable de l'Association Technique Internationale des Bois Tropicaux, ce qu'on appelle l'ATIBT. Vous êtes ingénieur agronome. Vous avez été diplômé de l'École supérieure d'agronomie tropicale de Montpellier. Donc, vous avez été à un moment donné un des nôtres, et puis vous avez travaillé 8 ans en Afrique, où vous collaboriez avec le CIRAD. Alors, je ne sais pas si j'ai tout dit, mais présentez-nous donc un peu peut-être ce que vous estimez être en complément de cela, et puis surtout, qu'est-ce que c'est que l'ATIBT ?
Bonjour, alors, bon, moi je suis avant tout un agronome dans le pays des forestiers, puisque effectivement, donc, j'ai commencé ma vie professionnelle au CIRAD dans le programme EVA, hein, en plantant donc en accompagnant des projets de plantation industrielle de caoutchouc naturel au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Cambodge, au Mexique, au Guatemala. Et puis je suis ensuite parti dans l'industrie du bois. Et j'ai rejoint donc l'Association Technique Internationale des Bois Tropicaux en 2016.
Et alors cette association, quelle est sa mission ?
Alors la TIBT réunit un grand nombre d'acteurs de la forêt tropicale, des entreprises forestières, des industriels du bois tropical. Ces deux groupes d'acteurs doivent être engagés dans la gestion durable, dans la certification et dans la traçabilité, mais réunis aussi un certain nombre d'ONG, des centres de recherche comme le CIRAD, l'Université de Jean Blou, des organismes internationaux comme l'OIBT, la FAO, et puis des experts individuels. On est environ 150 membres répartis dans 29 pays du monde.
Alors, vous avez donc créé cette ATIBT en quelle année ?
Alors, l'ATIBT a été créée donc par la FAO et par l'OCDE en 1952. Il y a maintenant 70 ans et quelques.
Alors, à cette époque, est-ce qu'on parlait déjà de la déforestation ?
Non. La déforestation, même si elle était réelle, n'inquiétait pas grand monde. À l'époque, le problème qui se posait, c'était d'avoir de la ressource, d'avoir du bois dans le monde d'alors. C'était la reconstruction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Et le bois était un bien relativement difficile à trouver en Europe du fait de la dévastation des forêts européennes qui étaient mitraillées ou disparues. Et puis il s'avérait important de mieux connaître les qualités du bois tropical, la logistique inhérente à ce matériau qui est un matériau logistique. Et de mettre en œuvre des chaînes de valeur autour de celui-ci.
Donc quand l'AIBT a vu le jour, en fait, il s'agissait essentiellement de répondre à un besoin qui était celui du bois, comme vous venez de nous l'expliquer. Mais à l'époque, il ne s'agissait pas d'autre chose. Et puis petit à petit, il a fallu redonner confiance dans l'usage du bois tropical à la population qui commençait à se préoccuper justement des problèmes de déforestation.
Alors, il y a eu, avant d'arriver à cette étape qui est l'étape actuelle, on va dire, hein, ou plutôt plus récente, hein, des 15-20 dernières années, il y a eu l'implication de la TIBT au tournant des années 90 sur les plans d'aménagement des forêts tropicales, puisque vous savez, l'aménagement des forêts en Europe et en France en particulier est quelque chose déjà ancien. Mais les forêts africaines, les forêts tropicales, ne faisaient pas l'objet de plans d'aménagement. Donc la TIBT a été la cheville ouvrière de la mise en place de plans d'aménagement, en tout cas en Afrique centrale.
Mais c'est voilà nos PAFT. C'est bien le plan d'aménagement des forêts tropicales. Voilà.
Oui, absolument. Les forêts tropicales se doivent d'être aménagées. Hein.
Alors, quelle était à ce moment-là votre tâche principale? Quand vous parlez d'aménagement, l'aménagement, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la coupe et on replante.
Non. L'aménagement comporte, alors je ne suis pas spécialiste de l'aménagement forestier, mais l'aménagement comporte essentiellement une étape première qui est l'inventaire forestier, connaître la ressource, qu'est-ce qu'on a dans notre forêt, où se situent les essences les plus importantes, où sont les arbres qui doivent être préservés du fait de leur qualité de semenciers. Bref, c'est une cartographie des zones forestières et avec une programmation des zones de coupe et ensuite une programmation de période de régénération.
Alors, on a peut-être besoin de savoir, hein, parce que c'est pas forcément connu par tout le grand public, mais un arbre tropical, finalement, c'est en tout cas l'arbre tropical que vous allez avoir à gérer. Comment le définiriez-vous? D'abord, il a quel âge? Qu'est-ce qu'il représente? Est-ce que ce sont tous les arbres tropicaux que vous travaillez?
Alors, un certain nombre de points essentiels. La forêt tropicale, contrairement à nos forêts européennes, elle est faite d'une immense variété d'essences. Hein. Les forêts boréales comportent 3-4 essences. Les forêts françaises, on va dire, une cinquantaine d'essences. Les forêts tropicales, elles comportent des centaines et des centaines d'essences, ce qui fait que les forêts du bassin du Congo vont avoir en gros 500-600 essences différentes. Ça, c'est un premier point. Donc, avant tout, une très grande variété d'essences. Un deuxième point, l'immense majorité de ces essences ne font pas l'objet d'une exploitation. Hein. Soit parce qu'elles sont non utiles, elles ne sont pas intéressantes du point de vue de leur qualité mécanique, soit tout simplement parce qu'elles ne sont pas connues. On connaît le nom, hein, on sait les décrire au plan botanique, mais leurs qualités d'usinabilité ne sont pas connues. Et ensuite, vous avez un petit groupe de 20-30 essences sur les 500 à 600 essences qui vont faire l'objet d'une exploitation. Et ensuite, il faut savoir qu'au-delà de cette restriction de l'exploitation, il faut savoir que dans un plan d'aménagement, vous ne faites jamais de coupe rase. Vous savez que cette question des coupes rases fait débat en Europe. Dans les forêts tropicales, il n'y a jamais de coupe rase, en tout cas pour les besoins de l'exploitation forestière, puisqu'on exploite en gros, en moyenne, un arbre par hectare tous les 25 ans.
Alors, on va faire justement tout de suite, puisque vous l'abordez, la différence entre l'exploitation du bois tropical en vue du commerce, ce que vous venez de nous décrire hein, d'une certaine manière, et puis la déforestation des forêts tropicales telle qu'elle a eu lieu pour y faire des plantations monospécifiques comme les palmiers à huile en Thaïlande ou comme le soja au Brésil.
Effectivement, on ne fait jamais de coupe rase dans le cadre de l'exploitation forestière. On n'en a pas besoin. Il s'agit d'identifier les individus qui ont des caractéristiques intéressantes pour la filière forêt-bois, mais en fin de compte, on fait une cueillette hein, en prélevant donc cette unité à l'hectare tous les 25 ans. Donc,
mais on vous reproche quand même, en fait, en allant faire cette cueillette, d'abîmer la forêt. C'est-à-dire que vous tracez des routes, vous avez des engins, et malgré vous, vous déforestez, ou en tout cas, vous ouvrez des voies à ceux qui vont peut-être déforester.
Alors ensuite, ça peut être le cas lorsque on mène une gestion non durable, mais d'abord, l'impact sur l'ouverture des routes, hein, donc au travers de la mise en place de méthodes à impact réduit, on va mettre en place, créer des routes le plus étroites possible, on va créer le moindre kilométrage de routes possible, on va optimiser ce réseau routier, et ensuite ce réseau routier, on se doit de le clôturer, de le fermer après l'exploitation, justement pour éviter qu'il fasse l'objet d'une utilisation ultérieure à des fins agricoles.
Et les animaux passent comment alors ?
Les animaux, ils n'ont pas besoin des routes pour se déplacer dans la forêt. Hein. Les animaux, ils n'ont pas besoin des routes. C'est une évidence.
Hein. Bon, donc vous protégez finalement ces routes d'un impact qui serait un impact de déplacement de population.
Non, ça serait plutôt le braconnage qui fait l'objet de nos soucis. Hein. On veut éviter que ces routes ne soient utilisées par les braconniers ou par les populations qui risqueraient de vouloir coloniser ces espaces désormais ouverts. Mais il faut savoir une chose, c'est que ces routes, une fois qu'elles sont fermées, elles mettent très peu de temps à être à nouveau impossibles à fréquenter, puisque au bout de 3-4 ans, on ne peut plus circuler dessus. Et au bout d'une période considérée de 8 à 12 ans, on ne les voit plus. Elles disparaissent totalement dans le paysage. Et c'est un impact sur l'environnement que ces routes, oui, mais c'est un impact qui est relativement court dans le temps et qui, par contre, aura permis de donner de la valeur à la forêt, de créer de la richesse, et d'assurer que cette forêt soit une source d'emploi, une source de taxes pour les États, et qu'elle fasse l'objet de l'intérêt des États. Il faut que cette forêt ait un rôle dans l'économie, il faut que l'économie forestière ait un rôle dans l'économie des pays, de manière à ce que les pays la respectent. Sans quoi, si la forêt n'a pas cet intérêt stratégique au niveau des pays, les pays vont plutôt opter pour l'agro-industrie, pour le minier, pour d'autres activités qui seront source d'emploi et source de richesse.
Alors,
donc, il faut maintenir cette forêt en tant que source d'emploi et source de richesse sur le long terme.
Donc, on voit que toute cette question du développement vous a préoccupé. Le public reste quand même convaincu aujourd'hui que cette action est insuffisante. Hein, et donc, pour répondre finalement à cette méfiance, vous avez lancé l'éco-certification. Donc, l'éco-certification, c'est à la fois un audit de ces gestions forestières et puis c'est un suivi du bois jusqu'au consommateur. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette éco-certification répond finalement aux questions que se pose le grand public qui craint cette déforestation, déforestation qui aura forcément un impact à la fois sur l'eau, à la fois sur la gestion du climat, etc. etc.
Alors, autrement dit, vous avez deux grands schémas, hein, d'éco-certification. Hein. Vous avez le FSC qui est né dans les années 94-95 au Mexique. Vous avez ensuite le PEFC qui est né en Europe. Pour répondre simplement à votre question, ces schémas sont aujourd'hui ce qu'on a de plus fiable. Ils sont toujours améliorables, ils sont toujours perfectibles. De fait, ce sont des processus qui sont révisés de manière continuelle, mais c'est aujourd'hui le mécanisme le plus à même de rassurer le consommateur et de lui dire, voilà, le bois que vous achetez, qui est éco-certifié, il est bien géré. Et il est produit dans des régions où l'on se soucie du volet social, on se soucie du volet environnemental, on se soucie de la faune.
Alors, ça c'est... Oui. Pardon, ça c'est quand même quelque chose, par exemple, que le WWF va vous demander d'approfondir les solutions qui sont proposées pour endiguer la perte de la forêt, pour se concentrer sur le développement rural, la réduction de la pauvreté, la gestion durable des forêts, des programmes de reforestation finalement qui tiennent compte des hommes et des femmes qui vivent dans ces endroits. Donc, est-ce que aujourd'hui, on a vu donc vos premières préoccupations qui étaient d'identifier, de comprendre, de connaître. Maintenant, vous avez ensuite redonné un peu de confiance en éco-certifiant un certain nombre d'allers-retours des bois. Est-ce que vous en êtes à une phase où vous allez pouvoir justement intervenir maintenant sur cette gestion durable demandée, qui n'est plus seulement la gestion durable de la forêt, mais qui est la gestion durable d'un territoire?
Alors, le WWF fait partie de ces grandes organisations qui appuient ces schémas d'éco-certification pour toujours les améliorer. Nous-mêmes, on est acteurs de cette amélioration continue, parce que chaque fois qu'il y a des points de vigilance, chaque fois qu'il y a des failles, on se doit de rectifier le tir.
Est-ce que vous pouvez me donner un exemple?
Sur par exemple la question du carbone forestier. Aujourd'hui, les schémas de certification, peu à peu, s'efforcent de faire un lien entre la gestion durable et également le stockage de carbone par les forêts certifiées. La mesure de ce stockage liée à la certification. On est sur des processus relativement complexes. Moi-même, je ne suis absolument pas un spécialiste du carbone forestier, mais il n'y a pas de doute qu'il y a à évaluer l'impact de la certification sur le carbone. La même chose sur la faune. Quel est l'impact de la certification, de l'éco-certification sur les populations animales dans les concessions forestières certifiées? On sait qu'elle augmente. On sait que la lutte contre le braconnage est efficace dans les concessions qui sont certifiées. Maintenant, reste à mieux connaître sur le plan quantitatif l'impact sur cette biodiversité, de manière éventuellement, dans un avenir proche ou moins proche, de mettre en place également des certifications biodiversité.
Voilà. Est-ce que vous ne craignez pas que finalement ces démarches prennent un peu trop de temps par rapport à la manière dont les choses évoluent un peu plus rapidement?
Alors, les choses évoluent rapidement, ça dépend lesquelles. La filière forestière en soi est une filière très, comment dire, relativement stable. Il n'y a pas de déforestation liée aux activités forestières. Elle est extrêmement faible. Il faut lutter surtout contre les grandes causes de déforestation. La gestion durable comme la conservation sont des remparts contre la déforestation.
Oui, mais quand vous avez à lutter, par exemple, contre l'installation d'un oléoduc comme celui que Total est en train de construire, c'est une déforestation énorme. Est-ce que vous avez les moyens? Est-ce qu'on peut dire qu'une association comme la TIBT peut jouer un rôle dans un cas comme celui-là, quand il s'agit de se bagarrer contre une multinationale?
Lutter contre des décisions liées aux hydrocarbures, au secteur minier, qui sont des secteurs qui ont un poids économique très important dans les pays où l'on opère, ça répond à ce sont des décisions politiques. Et ce qu'on peut faire, c'est éventuellement au travers d'un plaidoyer tenter d'orienter ou de réorienter certaines décisions de manière à préserver les grands écosystèmes. Mais il faut savoir que il n'y a pas beaucoup de poids de la filière forestière du monde de la conservation à l'heure des grandes décisions comme celles que vous mentionnez.
Donc vous voulez dire que en fait la situation reste extrêmement complexe et que même si vous représentez un secteur économique puissant et important, vous n'avez pas tout pouvoir.
On représente un secteur qui est surtout important du fait de l'impact social, de l'emploi, des conséquences au plan social, de la préservation de ces écosystèmes dans lesquels on opère, puisque, comme je vous l'ai dit, le volet social est extrêmement suivi. Par contre, force est de constater que bon, notre secteur, au niveau du PIB des pays où l'on opère, bon, il représente relativement peu si l'on compare son poids au poids des hydrocarbures, par exemple. Hein. C'est relativement complexe de contrecarrer des décisions sur des infrastructures minières ou pétrolières.
Alors, vous avez été pourtant agronome, vous êtes agronome de formation, et vous savez qu'on avait quand même une capacité à nourrir des populations grâce à la forêt tropicale. Est-ce qu'on va conserver cette capacité?
Nous, on le souhaite, on fait tout pour. On fait en sorte que le nombre de personnes qui vivent dans les forêts tropicales soit maintenu. L'existence même des concessions forestières est un mécanisme de lutte contre la migration vers les villes. On aide les populations à se fixer dans les territoires, puisqu'il y a donc des infrastructures, il y a des centres de soins, il y a des écoles, donc il y a toute une économie rurale qui se crée et qui se maintient grâce à cette filière forestière. Et c'est vraiment, c'est au cœur de nos soucis que de maintenir et de renforcer cet ancrage rural de ces activités.
Alors, on va revenir maintenant sur une nouvelle loi européenne qui peut-être peut jouer aux côtés de ce que vous faites, aux côtés de finalement ce souci ou cette préoccupation de gérer correctement le commerce du bois. On sait que les consommateurs européens sont aujourd'hui responsables de 10% de la déforestation mondiale via leur importation de produits agricoles et forestiers. Je vais parler par exemple du cacao, de l'EVA, de l'huile de palme, etc. Et donc une loi s'est mise en place qui essaie justement de restreindre l'importation de ces produits qui ont un rôle important sur la déforestation. Alors qu'en pensez-vous? Voilà.
Nous, on applaudit cette réglementation contre la déforestation importée. Hein. Donc, ce règlement de l'Union européenne contre la déforestation, qui est le RDIE, nous le soutenons. Nous considérons que ce règlement encourage les bonnes pratiques, soutient indirectement la certification, ne la reconnaît pas parce que la certification reste un processus privé, mais de fait est un mécanisme qui colle bien au fonctionnement des entreprises certifiées. Puisqu'elles garantissent de par leur organisation et leurs objectifs qu'il n'y a pas de déforestation dans leur sein.
Oui, mais vous allez avoir quand même du travail, parce que d'après ce qu'on sait, c'est que quand même aujourd'hui, les États qui produisent le bois tropical ne sont pas favorables à cette législation.
Mais ils ne sont pas favorables, non pas en raison de la filière forestière, ils sont préoccupés par les autres filières. C'est la raison pour laquelle hein, vous avez certains États du Sud qui sont inquiets et qui se soulèvent contre cette réglementation. Ce n'est pas du tout la filière forestière qui les inquiète. Hein. C'est plutôt les autres filières agricoles qui sont beaucoup plus, on va dire, exposées à des risques liés à la certification, à la réglementation européenne contre la déforestation. Et notamment tout le monde des petits paysans qui ont une difficulté donc à tracer leurs produits, qui alimentent par contre de grandes chaînes d'exportation, hein, comme le cacao. Hein. C'est là que vont se situer les difficultés de mise en œuvre du règlement européen contre la déforestation importée, puisque vous savez que ce règlement vise donc l'huile de palme, le caoutchouc, qui sont finalement de grandes cultures, hein, relativement faciles à tracer, mais il vise aussi le cacao, et le cacao, il est plutôt produit par des petits et moyens producteurs. Donc c'est là plutôt que va se situer la difficulté de garantir un sourcing totalement qui ne génère pas de déforestation.
Bon, Benoît Jebet-Duval, j'aurais aimé qu'on parle ensemble, bien sûr, de vos expériences au Congo et ailleurs. Le temps nous est malheureusement compté. Et donc, on va essayer, on va se quitter sur cela. Est-ce que vous auriez quelque chose d'autre à ajouter ?
Écoutez, s'il n'y a qu'une seule chose à dire par rapport à les messages de notre association, c'est qu'il faut une économie forestière durable. Ce n'est pas facile à comprendre par le grand public parce qu'il est difficile d'accepter qu'il faille couper un arbre pour en sauver 1000. Pourtant, c'est la réalité. Donner de la valeur à la forêt tropicale, c'est accepter que certains individus soient exploités. Et c'est source de richesse, source d'emploi, et il faut que le consommateur reconnaisse la valeur de la certification et de ce bois qui parfois arrive entre ses mains.
Et promettez-nous que vous veillerez à être le moins impactant possible. Voilà, bien, nous allons nous quitter sur ces bonnes paroles. Merci à vous et à bientôt.
Merci, au revoir.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.